Le Seigneur soit avec vous.
Lecture
de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Parle, maître. » Jésus reprit, « Un créancier avait deux débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'aimera davantage ? » Simon répondit, « Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. » « Tu as raison, » lui dit Jésus. Il se retourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu n'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais à celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. » Il dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire entre eux, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Applique-toi à lire l'Écriture aux fidèles, à les encourager, à les instruire. Ne néglige pas le don de la grâce en toi qui t'a été donné au moyen d'une parole prophétique. Dans le collège des anciens, quand le collège des anciens imposait sur toi les mains, prends à cœur, applique-toi à cela afin que tous voient tes progrès, veille sur toi-même et sur ton enseignement, maintiens-toi dans ces dispositions. En agissant ainsi, tu obtiendras le salut et pour toi-même et pour ceux qui t'écoutent. Espérons-le. On annonce la parole de Dieu. On prêche. On prêche cette parole vivante, efficace, qui va droit au cœur. Ça, c'est très important. Vous devez avoir un cœur ouvert, mes amis. Attention. Sinon, vous perdez votre temps. Complètement. Et même, ça devient source d'endurcissement. Les nerfs, on n'est pas content, on râle, ça ne me plaît pas, moi je veux ceci, moi je veux cela. C'est ce qui se passait du temps de Jésus avec les pharisiens. Jésus prêchait la parole de Dieu, le royaume de Dieu. Mais il avait besoin d'avoir un auditoire de cœur ouvert, d'enfants même, dira-t-il. Vous voyez, les pharisiens, ils ne recevaient rien, les scribes, ils ne recevaient rien, parce qu'ils étaient imbus d'eux-mêmes, ils savaient tout. Oh, voilà, ça ne les intéressait pas. Et c'est souvent comme ça dans les assemblées. Tu prêches la parole. Ah, évidemment, si celui qui prêche dit des bêtises. Mais quand il prêche la parole de Dieu, qui dit « Ouvrez vos cœurs, convertissez-vous, réjouissez-vous, priez, jeûnez, changez, ne croyez pas que vous savez. Ce que Dieu cache aux sages et aux intelligents, il le révèle aux tout petits. Soyez petits, soyez humbles, recevez la parole de Dieu. » Quand on prêche la parole de Dieu, ceux qui résistent à la parole de Dieu, c'est parce qu'ils sont orgueilleux, parce que ça ne leur plaît pas, ça les énerve. Il voudrait autre chose. Vous comprenez ça, c'est très important. Parce que cette parole est salut pour ceux qui écoutent. Donc je vous dirai, et je le dirai à tous, et il faut le dire ça, c'est très important, comme dit Jésus, soyez attentifs à la manière dont vous écoutez. Si la parole te gêne, si tu dis « Ah mais non, oh oui », alors quelquefois on peut dire « C'est le style du prédicateur, ça me gêne ». Pas vrai, c'est pas vrai ça. Pas le style des prédicateurs, ce qui t'embête, c'est ce qu'il dit. C'est ce que Jésus te dit. Ce que Jésus te dit, ça te casse les pieds. Tu voudrais plus que Jésus te passe de la pommade, disait « Tu es bien, tu es un bon chrétien, tu es un bon pharisien, tu es bien, oh non, alors vraiment, toi, impeccable. Hein » Et puis qu'on te parle de choses, de peut-être, de pastorales ou de choses intéressantes, qui font un peu référence à ce que tu fais pour que tu sois un petit peu dire ah « ben oui, là, je suis bien, là, je suis content, là, tout va bien. » Je suis bien, et le bon Dieu, il est bien content de moi. Oh là là, eh bien, du tout ça, hein, c'est pas du tout ça. Ça, c'est mauvais, c'est zéro, ça vaut pas un coup. Ça, rien du tout. Ce qui est bon, c'est quand la parole va droit au cœur, là, paf ! Tam, poum, poum, poum. Je me souviens, la première fois que j'ai entendu une vraie prédication dans l'esprit, c'était un prédicateur. Alors, extraordinaire. Un Africain. Hein, et alors, j'étais là, moi... prêtre, déjà depuis pas mal d'années, mais il y avait besoin un peu de lessive. Hein. Et alors, j'avais mes choses, je me croyais un petit peu, vous savez, théologien, ou je sais pas, je pensais que je savais quelque chose. Allez, on est comme ça, vous savez, même les curés, on s'y croit un peu, il faut que le Seigneur nous dépouille. Hein. Et alors, le prêtre arrive et commence à prêcher, pom-pom, c'était du bazooka. Ça, j'en perdais le souffle, ça allait droit au cœur, j'étais là, ça me touchait, j'étais dégommé par la parole de Dieu, voyez, et j'ai reçu une grâce et j'ai été renouvelé dans la puissance de la parole et dans la prédication. Ça a été un moment très fort de ma vie, voyez, une grande transformation. Donc laissez-vous toucher par la parole. Si la parole ne vous touche pas et ne vous remet pas en question, c'est que votre cœur est dur. Il y a de l'endurcissement et de l'orgueil, ça va ensemble. Endurcissement, orgueil. La parole ne rentre pas. Normalement, une bonne prédication doit toucher ton cœur, si c'est l'esprit. Parce que Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Et la parole que je vous adresse, par exemple, aujourd'hui, c'est la parole de Jésus. C'est la parole du Sauveur. C'est la parole du Rédempteur. C'est la parole de celui qui a dit, dès le début des quatre évangiles, surtout les trois synoptiques, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et ensuite, il a prêché en parole et en acte. Et alors, si on va à l'évangile, bien sûr, là, c'est très clair. On voit vraiment Simon, le pharisien, qui est fermé. Oh, moi, je crois que j'aurais fait la même chose. Hein. Si j'avais reçu un grand Jésus, un grand prophète, là, chez moi, dans la maison familiale, voyez, et puis pour qu'il vienne nous parler, et puis s'il y avait une fille de la rue qui serait venue, qui avait une vie mauvaise, je suis sûr que j'aurais dit, mais non, écoutez, non, qu'elle mange à la cuisine. Non, maman, non. Non, je ne veux pas la voir. Hein. Ah non. Ah non, non, non. Là, c'est important ce soir. Vous voyez, je l'aurais fait dégager. Hein. Ah ben oui, pas me regarder comme ça. Oui, je l'aurais fait dégager. Parce que je dis, ce n'est pas convenable. Vous voyez, il faut des gens convenables quand même. Hein. Il faut des gens qui sont politiquement et surtout socialement corrects. Hein, pour être, voilà. Eh bien, Jésus, non, ce n'est pas ça. Jésus, il est venu pour les paumés, pour les pécheurs, vous voyez, pour les misérables. Voyez, tant qu'on n'est pas, on se met pas du côté des misérables, tant qu'on se considère pas vraiment comme un misérable, eh ben croyez-moi, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et là, je vais toucher un point pour finir là-dessus, et c'est très très important. Et ça, vous pouvez le retrouver dans toute la tradition des pères, surtout les pères du désert. Il faut demander le don des larmes. Cette femme-là, pécheresse, elle pleure son péché. Mais c'est pas seulement réservé à la pécheresse ou à Marie l'Égyptienne qui avait aussi beaucoup péché ou à saint Augustin ou à saint François ou aux grands pécheurs. Non, 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 non. Même à ceux qui n'ont jamais péché, on doit arriver à être touché par la grâce de Dieu et comme le curé d'Ars qui n'était pas un grand pécheur, être convaincu de péché, comme dit Jésus dans l'évangile de Jean. L'Esprit Saint vous convaincra de péché. Vous voyez, ça c'est très important, c'est un passage dans la vie spirituelle. Écoutez bien. On mène sa vie spirituelle normale, on fait des actes de piété, on va à la messe, on prie le chapelet, on récite la parole de Dieu. Déjà, c'est bien, on prend du temps pour prier tous les jours. D'accord ? Ça, c'est le premier niveau. Le premier niveau, chez Sainte Thérèse, c'est commencer à faire oraison. C'est les deuxièmes demeures. C'est-à-dire vraiment avoir compris que sans la prière, eh ben, on est foutu. Voilà, on n'avancera pas. Donc, on se décide à prier. À prier, à prendre du temps pour Dieu. C'est les deuxièmes demeures. Et après, on passe un petit peu plus loin. Hein, on arrive au troisième, on a une vie chrétienne bien. Rien à dire. Cette dame, oh, il n'y a rien à dire. Elle se lève le matin, elle fait sa prière. Après, avant midi, elle fait son chapelet. elle va à la messe tous les jours, le soir elle dit ses vêpres, avant de dormir une petite prière encore, elle est pieuse, elle est charitable, elle aide aux cathés, elle aide les pauvres, vraiment rien à dire, nickel, d'accord ? Il y en a comme ça, c'est ce qu'on appelle les troisièmes demeures, c'est la vie chrétienne stable, c'est pas encore, c'est juste le béaba. Quand est-ce qu'on va dire que vraiment la personne a grandi ? Non, bon, ça non, parce que t'en as tout un tas qui annoncent l'évangile et qui valent pas un clou, hein. Attention, hein. Peut-être moi le premier, je fais le signe de la croix, voilà, j'espère que je me sauverai. Non, quand elle va pleurer son péché, quand vous allez être touché par la grâce de Dieu, disent les pères, hein, ça c'est très important, hein, il y a beaucoup de sites, quand vous êtes comme foudroyé, hein, qu'il y a une épée qui vous rentre dans le cœur, vous avez le sentiment profond, vraiment, que vous êtes un pécheur, que vous ne faites rien pour Dieu, que vous n'aimez même pas Dieu, qu'il n'a pas la première place, quand vous voyez en plus venir du fond de votre cœur des espèces d'attitudes, de comportements, de paroles, de manque de charité, d'égoïsme, d'omission énorme, voyez, de choses. Ah, mon Dieu, mais c'est dur, on devient dépressif, on se dit, mais c'est pas possible, mais moi j'ai fait ça. Oui, toi, ça c'est le feu, c'est la lumière de l'Esprit-Saint qui commence là à te mettre. Mais tu te dis, mais je suis foutu. Hein, comme le paysan, comme le cordonnier d'Alexandrie, hein, que venait voir Saint Antoine dit, mais pourquoi ils disent que tous tu es un saint, hein, si tu travailles, tu fais tes godasses, tu manges, tu dors, tu me dis, oui, je mange, je dors, 8 heures, 3 fois 8, 24, voilà, je dors, je travaille, et je prie un peu, et moi je prie, je jeûne, je fais tout, et je ne sais pas pourquoi tu as cette réputation. Eh bien, le cordonnier lui a dit, ben non, je regarde les gens passer dans la rue, là, et je me dis toujours, tous seront sauvés, et moi je serai précipité en enfer pour mes péchés. Dans la nuit de l'esprit, dans les sommets de la vie spirituelle, on se sent condamné. C'est même l'expérience de ceux qui sont condamnés. Il y a une co-rédemption. Hein, on partage l'expérience des âmes condamnées, justement comme Jésus. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais enfin, ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que cette femme-là, hein, elle évoque quelque chose qui est très connu dans toute la tradition mystique. C'est la componction, c'est le don des larmes. Le don des larmes. Saint Isaac le Syrien dit qu'il faut que tu l'aies, le don des larmes, pas de temps en temps. Souvent, là, de temps en temps, on pleure un peu, on dit, Seigneur, donne-moi ce don. Il faut le demander. Mais quand ça coule, quand tu es lavé, quand ton cœur est brisé en morceaux, comme ce parfum-là, tu te brises. Vous voyez ? Quand ton cœur est brisé, broyé, aux pieds du Seigneur, et que tu cries, Seigneur, je veux que tu sauves mon âme parce que je suis un pécheur, là, tu commences à donner du parfum. Là, tu deviens parfum. Comprenez ? Et là, quand il y a ce don des larmes, tout se brise en nous. C'est la transformation. Le cœur commence à vivre une vraie transformation. Et tu rentres dans la vraie prière qui est la prière contemplative. Vous me suivez ? Là, on rentre dans la prière contemplative. Il y a une invasion du Saint-Esprit. Le cœur est broyé. Il est humble, il est petit, il ne dit plus rien. Il est là, il gémit devant son Seigneur. Et ça, c'est vraiment la deuxième étape de la vie spirituelle. Il faut arriver à ça. Alors, il y en a qui arrivent à ça au moment de la mort. C'est dommage. Il faut arriver avant. Vous voyez ? Il faut arriver avant. Il faut le demander au Seigneur. Et il faut prier pour ça. Hein. Il faut vraiment rentrer dans la prière. Hein. Il faut prendre du temps avec Dieu. Ben, sinon, on sera toujours dans les deuxièmes et troisièmes demeures. Là, deux, trois, là. On sera là. Et encore, heureux si on arrive aux troisièmes demeures. Sainte Thérèse dit que ceux qui arrivent les âmes des troisièmes demeures, la vie bien réglée, déjà, c'est une grâce. Ils sont constants, plus ou moins constants, ils se confessent, vous voyez, ça c'est le minimum, mais ça c'est rien. C'est encore le fruit de l'effort humain, secondé par la grâce. Il faut arriver à être touché dans son cœur et à pleurer aux pieds de Jésus. Isaac le Syrien dit qu'il se mettait les bras derrière le dos, comme ça, comme un condamné, se prosterner dans sa chambre. Il faut utiliser le corps, utilisez ça aide. Jetez-vous au pied de la croix, les mains derrière le dos, et dit « Seigneur, je suis un condamné, je ne mérite que le châtiment, je n'ai rien fait pour toi, je me moque de toi, je donne une apparence de chrétien devant mes frères, mais je ne vaux rien, Seigneur, je ne suis même pas généreux, je suis plein d'égoïsme, plein d'égocentrisme, tout le temps centré sur moi, comme dit le pape, l'esclavage d'une vie centrée sur soi, je ne pense qu'à moi, le matin quand je me réveille, je pense à moi, je pense à ceci, je pense à cela, je pense à ma bourse, je pense à mon patrimoine, je pense à ce lien affectif, je pense à cette chose, je pense tout le temps à moi, je ne vis que centré sur moi. » Le nombrilisme à son maximal degré. C'est épouvantable. Vous voyez, ça ne vous fait pas pleurer, ça. Moi, ça me fait gémir. J'en ai marre, je ne me supporte plus. Quand je me vois dans la glace, j'ai tête à claque. Ça ne vous arrive pas? Vous voyez? Et c'est là que le Seigneur commence à nous toucher. Vous voyez, imaginez si la paroisse, si chacun, vous ici, ça y est, hein, vous êtes condamnés à vivre dans la compunction, dans les larmes, dans la petitesse. D'accord? Amen. Amen. Vous l'avez écouté, hein? Mais imaginez que toute la paroisse se convertisse, que toute la paroisse s'agenouille aux pieds de Jésus et se mette à crier jour et nuit, « Seigneur, Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ, prends pitié de moi, pécheur. » C'est la prière, c'est le cri du pèlerin russe, c'est le cri, c'est la grande prière de la tradition orientale. « Seigneur, Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. » Et à force de la répéter, on rentre dans cette supplication, hein, à Jésus pour lui demander de toucher notre cœur, nous qui sommes pécheurs, de nous faire miséricorde. « Prends pitié de moi, prends pitié de moi. » Vous voyez. Et là, on arrive au don des larmes, peu à peu. Il faut y arriver. Il faut demander cette grâce. Quelqu'un par téléphone que j'aime bien, là, il m'a dit il n'y a pas longtemps, il m'a dit « Je vais demander le don des larmes pour toi. » Amen, Seigneur. Oui, je le veux. Vous voyez, le don des larmes, j'aimerais pleurer la nuit, le jour, le matin, le soir, partout. Pleurer, pleurer, pleurer. Vous voyez, ces larmes, ça te lave. Ça lave ton cœur de pécheur. Ça te purifie. Ce sont des larmes qui te nettoient, qui te ressuscitent, qui te renouvellent. C'est extraordinaire. Et après, on accède à la divine volonté. Après, on prend les larmes de Jésus, les réparations de Jésus. Vous voyez ? On prend tous les attributs de Jésus. Jésus vient revivre en nous sa vie et nous vivons notre vie en lui, comme dit le catéchisme. On va plus loin, évidemment. Là, c'est les bases, toujours les bases. Et puis après, quand on vit pleinement la vie en Christ, hein, quand ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, comme dit l'apôtre Paul à Galates 2:19-20, eh bien, à ce moment-là, on entre, on fait nôtre la vie même de Jésus et on reproduit sa vie dans la divine volonté. Voyez, ses pleurs, ses larmes, ses supplications, ses gémissements, sa prière, son intercession, nuit et jour, se retirer partout, pour tous les hommes, au nom de tous, pour glorifier le Père, pour qu'il y ait une voix qui se repente au nom de tous, une seule voix, la plus belle de toutes, la voix du Christ Rédempteur qui supplie le Père au nom de tous ses pécheurs, de tous les hommes qui ne se repentent pas. Eh bien ça, vous pouvez le faire dans la divine volonté. C'est extraordinaire. La divine volonté remonte le temps, le futur, le passé, va partout. Donc vous prenez dans la divine volonté la prière même du Christ, sa supplication, ses réparations, et vous la présentez au Père au nom de tous et pour tous. Yeah. Extraordinaire. Eh bien, demandons au Seigneur cette belle grâce. Et là, tes péchés sont pardonnés. Tu vis dans la repentance. Il y a un saint qui dit la repentance, c'est 24 heures sur 24. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas un moment où on doit sortir de la repentance. Pourtant, rendre grâce et tout ça. Mais on rend grâce, hein, comme David, pour la merveille que nous sommes. Et après, on se replonge dans la repentance, bien sûr. Hein? Où on prend la repentance de tous les hommes dans la divine volonté. Oui, Seigneur, transforme-nous, purifie-nous, Jésus. Prions, demandons au Seigneur qu'il touche ton cœur maintenant, toi qui écoutes cette parole, que cette parole te fasse le même effet qu'à ces hommes qui ont été transpercés, dit la Bible, au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, ils eurent le cœur transpercé et ils coururent vers Pierre pour dire « Mais qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et Pierre leur a dit
Repentez-vous. Faites-vous baptiser au nom de Jésus. C'est-à-dire, plongez-vous dans le Christ et vous recevrez l'Esprit Saint. Repentance, baptême dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ et l'Esprit Saint, comme une nouvelle Pentecôte, descend sur toi maintenant, te renouvelle, te remplit, t'envahit, touche ton cœur, brûle en toi. Il brûle ton cœur, cette chaleur que tu sens maintenant, c'est l'Esprit qui te brûle, c'est l'Esprit qui te touche, c'est l'Esprit qui vient et qui te dit « Laisse-moi faire, laisse-moi tout prendre en toi, laisse mon feu te consumer, laisse mon feu dévorer tout ton péché, toutes tes peurs, laisse-moi te guérir, te transformer, c'est moi, je suis l'Esprit de celui qui est ressuscité d'entre les morts, l'Esprit de celui qui a payé le prix et qui t'a réconcilié avec le Père, l'Esprit de celui qui donne la vie, laisse-moi toucher ton cœur, laisse-moi te transformer. » Tu n'es plus ce que tu croyais être. Tu es à moi, tu es mon enfant, tu es mon petit. Tu es mon joyau. Pour toi, je suis mort et avec moi, tu es ressuscité pour la vie éternelle. Amen.